Entre nous soit dit, une émission proposée par Fabrice Hadjadj, avec aujourd'hui Monseigneur Charles Morero. Il est assez facile dans un sondage de faire répondre à la question « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Mais sans doute vaudrait-il mieux poser la question plus difficile et plus concrète « Qu'est-ce que vous divinisez dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin ? En quoi mettez-vous votre espoir ?» On se rendrait compte alors que l'athéisme, plutôt que d'accomplir la mort de Dieu, réalise la prolifération des idoles. En effet, avec une crédulité étonnante, on se met à diviniser n'importe quoi. C'est le salut par la croissance économique et la technoscience, sans doute, mais aussi partout et son contraire, du football à la respiration ventrale, en passant bien sûr par la consommation de produits culturels divertissants. Pascal le notait déjà, « Depuis que l'homme a quitté le vrai bien, c'est une chose étrange qu'il n'y a rien dans la nature qui n'ait été capable de lui en tenir la place. Astres, ciel, terre, éléments, plantes, choux, poireaux, animaux, insectes, veaux, serpents, fièvres, pestes, guerres, famines, vices, adultères, incestes. » Je laisse à la réflexion de l'auditeur ce que pourrait être une divinisation du poireau. Cependant, il faut noter aussi que l'athéisme n'est pas confronté qu'à ce seul problème d'aboutir à la pullulation des idoles, il montre en outre une structure mentale qui est exactement la même que celle de son grand adversaire et épouvantail, le fondamentalisme religieux. Le fondamentalisme prétend qu'il suffit de dire « Dieu, Dieu » pour résoudre tous les problèmes. L'athée prétend que pour résoudre tous les problèmes, il suffit de ne plus dire « Dieu », ce qui d'ailleurs l'oblige à le dire, comme Richard Dawkins, obligé de mettre sur la couverture d'un de ses livres intitulé « Pour en finir avec Dieu », le mot « Dieu » en très gros, plus gros que d'ailleurs « Pour en finir ». Exactement, en fait, gros comme sur les ouvrages fondamentalistes. Pour essayer de penser ces embarras de l'athéisme et ses relations avec le fondamentalisme religieux, nous avons aujourd'hui avec nous Monseigneur Charles Morero. Monseigneur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre cher évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, enfin je parle pour Fribourg en l'occurrence. Frère dominicain, vous avez été secrétaire général de la Commission théologique internationale et recteur de l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, plus connue sous le nom d'Angelicum à Rome. Vous êtes toujours membre du comité de rédaction de l'excellente revue Nova et Vetera, fondée par l'abbé Journet, et vous êtes l'auteur de nombreux articles et livres, notamment « L'Église et la recherche humaine de la vérité ». J'ai pris ce titre-là parce qu'on y voit votre souci toujours d'articuler la foi et la raison. Pourrait-on dire qu'aujourd'hui, il y a moins une crise de la foi qu'une crise de la raison, et que c'est cette crise de la raison qui conduit d'un côté au rationalisme athée et de l'autre à un fondamentalisme irrationnel.
On pourrait le dire, et je pense qu'on le dirait même à juste titre, et on peut faire un petit parcours historique. Une partie de la crise de la raison et de la religion est liée, une partie seulement, pas tout, est liée à des abus de l'une et de l'autre. On voit les Lumières réagir contre les guerres de religion et on comprend qu'on n'a pas aimé ça. Et essayer de remplacer la référence à un Dieu révélé par la référence à la raison, éventuellement une religion de la raison, ou en tout cas la raison. Et on voit des systèmes politiques et philosophiques se bâtir en lien plus ou moins direct avec ce type de référence. Et puis on constate qu'on n'a peut-être plus des guerres de religion, ou au moins on n'a plus que des guerres de religion, on a aussi des guerres entre systèmes politiques qui auraient été censés s'entendre, puisqu'ils étaient tous basés sur la raison, et que, présupposer les Lumières, sur cette base-là, tout le monde doit pouvoir tomber d'accord. Or, en fait, si tout le monde tombait d'accord sur la base d'arguments rationnels, on l'aurait déjà remarqué. Mais un problème est que dans ce qu'on appelle, de manière un peu souple, la postmodernité, on voit une association qui est faite, non sans quelques fondements, j'allais dire non sans quelques raisons, mais il vaut mieux l'éviter dans la même phrase, une association entre référence à la religion, référence à la raison, qui sont perçues comme deux attitudes un peu semblables, parce qu'en se référant de manière, entre guillemets, dogmatique à l'une et à l'autre, on risque d'aboutir à des conflits. Le risque est de fait avéré, ça arrive parfois. Du coup, on essaye de se détacher de la raison aussi. Pas en la supprimant complètement, ce qui est assez difficile, parce qu'on ne pourrait même plus dire qu'on la supprime, mais au moins, d'une part, en l'individualisant, c'est ma vérité à moi, mais je ne prétends pas que c'est la tienne, je ne prétends pas te l'imposer, quand même en le disant, on dit quelque chose. Et d'autre part, en la faisant exploser sous une masse de connaissances. On a tellement de connaissances accessibles immédiatement à tout le monde que c'est sous la surabondance de connaissances qu'on arrive en quelque sorte à étouffer la raison. Ce qui rend de ce fait même assez difficile un dialogue pourtant bien nécessaire, parce que sans référence commune et communément appréciée à la raison et à quelques points communs auxquels on peut s'accrocher, bien on évite difficilement quelque chose comme des conflits ou au moins une absence de compréhension.
Donc il y aurait une raison faible, après une religion faible, pour reprendre, on pourrait dire, des adjectifs qu'emploie le philosophe Gianni Vattimo. Hein. Il faut un bien faible, une raison faible, parce qu'on a peur que ça devienne dogmatique ou ça ait une emprise totalitaire. Mais en même temps, on pourrait dire que derrière ça, il y a, sous une forme qui n'est plus de l'ordre du dogmatique idéologique, mais de l'ordre finalement de ce qui vient prendre la place de ça, c'est-à-dire un règne d'une sorte de pseudo-rationalité technologique. C'est la techno-économie, pourrait-on dire, qui devient le seul lieu d'une sorte de rationalité instrumentale qui ne prétend pas proposer des fins ultimes, mais qui, d'une certaine façon, nous soumet à son règne du bien faible et d'un bien faible qui finalement devient celui de la consommation et qui va nous pousser peut-être à une transformation même de la condition humaine par la technique.
Oui, et je crois qu'on peut tous en faire l'expérience pratique, déjà pour commencer dans notre travail. Tout bêtement, pour pouvoir accomplir un travail intellectuel, on en est venu à avoir besoin, c'est pas un besoin strict, mais quand même presque, et heureux à bien des titres, d'un ordinateur, et il faut une connexion Internet, il faut régulièrement changer ses appareils, parce que si on en garde un qui fonctionne, et bien la technique nous oblige à changer, parce que commercialement parlant, on doit nous obliger à changer, et donc on dépend dans notre vie quotidienne, pour ne rien dire évidemment des transports et d'autres éléments, de quelque chose qui nous dépasse. Alors, pour que les choses se passent encore mieux, il est vrai qu'il faudrait aussi améliorer l'être humain, et en lui ajoutant quelques pièces probablement pour que ça aille mieux, et puis en faisant des ordinateurs eux-mêmes un peu biologiques. Donc en fait, on mélange les domaines. Une vie, disons, naturelle, telle qu'on l'entendait autrefois, à bien des égards, semble être devenue à peu près impossible. Ce n'est pas impossible, mais si on essaie de la vivre ainsi, on est un peu marginalisé. D'autant que la technique est aussi économique, et dans un monde dominé par l'économie, Jésus disait « on ne peut adorer à la fois Dieu et Mammon, Dieu et l'argent », et chaque phrase de l'évangile révèle petit à petit, ou suivant les époques, sa force. Là, on le voit assez. Nous sommes dans une société où de plus en plus mondialement, mais en tout cas dans nos pays industrialisés, c'est déjà très clair. Pour survivre économiquement parlant, on doit se mettre complètement au service d'un système économique, vivre à 100 à l'heure tout le temps, ne jamais avoir le temps de s'arrêter un peu. Évidemment que même si on le désire peut-être, il n'y a plus vraiment de place pour Dieu. Il n'y a pas tellement de place pour l'autre, il n'y a pas tellement de place pour la vie de famille. Et si on ne veut pas courir ainsi à 100% à 100 km/h tout le temps, à 100% de ses capacités, et arriver à la retraite complètement épuisé en se demandant ce qu'on a fait de sa vie, on se retrouve marginalisé. Alors, éventuellement, on n'a plus de travail, on est à la marge de la société, et ce n'est pas idéal non plus, par exemple, pour la vie de famille. Et il semble qu'il y a peu de possibilités, il y en a, mais il y a peu de possibilités d'échapper à un tel rythme de vie dominé par un ensemble techno-économique ou économico-technique.
Mais on pourrait dire effectivement qu'on a une sorte de dispositif techno-économique qui produit, alors vous l'avez dit, hein, le flux constant d'informations qui fait que d'une certaine façon, toute recherche qui ne serait pas dispersée est interdite. Donc on pourrait dire la démarche de sagesse est interdite. Hein. On se souvient de la phrase de Tacite qui disait la majeure partie de la sagesse consiste à ignorer certaines choses. Donc si je veux être tout le temps en contact avec tout, je ne peux pas me concentrer ni méditer sur l'essentiel. C'est un des problèmes de la curiosité comme vice qui me disperse. Et de l'autre côté, on pourrait dire en plus que ce dispositif technologique, pour reprendre la pensée d'un philosophe américain qui parle du dispositif, du device, comme ce qui associe une commodité et une machinerie. La machinerie reste opaque, on a des choses toutes cuites qui nous arrivent. On pourrait presque dire que ça vient aussi réduire le sens de la pensée causale, de la recherche du pourquoi, parce que le principe du dispositif consumériste, c'est que les choses nous arrivent sans qu'on s'interroge comment. On ne sait plus très bien comment est fait le pain, comment est fait le rapport causal de la production des objets et des nourritures, des articles de la grande distribution. Finalement, on n'a plus de visibilité, c'est opaque. Et en plus, on pourrait dire que cette multiplication d'images et d'informations, au lieu de créer une structure, on pourrait dire syntaxique ou hypotaxique, où on cherche des causes, nous met dans une situation parataxique, où les choses sont les unes à côté des autres, et empêche le travail de la raison, qui est de remonter de cause en cause pour arriver à une cause première et pour se poser la question de la cause première, de Dieu, à partir de la raison, c'est ça ce que je veux dire. Parce que dans ce dispositif-là, Dieu peut venir, mais il viendra forcément sous un mode sentimental ou pulsionnel, mais pas sous la forme de la démarche de la raison qui recherche les causes.
Et il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. D'une part, le fait que Tacite a dit quelque chose, ce qui ne laisse de me surprendre. Ensuite, la connaissance, la réflexion de sagesse implique de ne pas tout connaître. C'est en fait cela, aussi la mémoire humaine. Ce n'est pas un manque d'intérêt, de respect pour certains éléments, mais notre mémoire fonctionne par oubli. C'est-à-dire, en fait, une grande partie de ce qui se passe autour de nous pendant la journée, on ne s'en souvient pas parce qu'on est habitué à enregistrer que nous n'avons pas besoin de nous en souvenir. Et évidemment, parfois on se trompe. Mais si quelqu'un a une mémoire absolue, c'est en fait une pathologie. Il ne peut pas vivre, il n'arrive pas à faire le tri. Ça, c'est notre mémoire en elle-même, si j'ose dire, telle qu'elle fonctionne naturellement dans un être humain. Mais si on a une mémoire artificielle qui, en fait, nous met constamment tout à disposition, bien sûr, c'est à bien des égards très utile, et j'ai très souvent l'occasion de m'en réjouir très vivement, pas besoin de perdre un temps fou, à essayer hypothétiquement de trouver quelque chose que je peux effectivement trouver très vite. Bon, ça rend aussi ma mémoire paresseuse. Mais il est assez clair que ça rend le tri beaucoup plus difficile parce que le fonctionnement de l'intelligence est en partie remplacé par des machines et on n'est qu'au début de ce processus.
Et même la multiplication, le bombardement continu d'informations, finalement, vous dites une société de l'information, c'est une société de l'amnésie, quoi. On ne peut plus faire une vraie mémoire vivante.
Oui. Ça rend manifestement la sagesse plus difficile et même quand on essaye de voir les débats sur des thèmes précis, on voit qu'il y a une telle multitude d'opinions exprimées comme des faits certains qu'on trouve sur différents sites que chacun finit par avoir une vision globale de telle ou telle question sans beaucoup d'esprit critique, même sur ce qui lui est déversé comme évident par les sites qu'il consulte. Je voyais, il y a quelques jours, sur Facebook, quelqu'un qui avait publié, ça a attiré mon attention, qui avait publié un article disant « Ne supprimez pas de Facebook vos amis racistes ». Alors, quel était l'objet exact ? Ce n'était pas le racisme comme tel. Mais en disant, si vous voulez supprimer de vos amis Facebook ceux qui ne pensent pas comme vous, vous recevrez, par ceux que vous aurez gardés, une multitude d'informations qui confortent ce que vous pensez déjà, et vous ne verrez plus ce que pensent les autres. Et en fait, c'est un des risques face à la surabondance d'informations. Je me réfugie dans le groupe de ceux qui pensent comme moi, et j'ai déjà artificiellement l'impression d'être au sein d'une multitude énorme. Mais sans même remarquer qu'il y en a d'autres qui pensent autre chose, que j'ai plus besoin de dialoguer avec eux, d'intérioriser leurs arguments et les miens. Tu me dis, mais enfin, pourquoi est-ce que lui dit ça? Mais et moi, pourquoi je dis ça? C'est l'usage de la raison. Et puis, on ne sait plus comment on fait le pain. Je me rends compte que j'ai grandi à la périphérie d'une petite ville, ce qui, dans le fond, est une assez bonne chose. Parce que je voyais, dans mon enfance, des vaches autour de la maison. J'ai vu faire du fromage et je me dis, j'ai intégré ça comme quelque chose d'assez évident. Le lait, enfin en tout cas ce lait-là, ça vient des vaches et le fromage, ça demande un effort de transformation, etc. Je dis, maintenant, ce matin même, je passe dans un supermarché, on me donne deux petits bouts de fromage emballés à titre de publicité. Je dis, mais quelqu'un qui n'a pas eu cette type de contact avec la nature, même s'il sait par ailleurs qu'il existe des animaux appelés des vaches, est-ce qu'il sait d'où ça vient ce machin emballé qu'on lui donne gratuitement à titre de publicité? Et si on ne le sait pas, on n'a plus ces occasions qu'à traverser les millénaires d'observer, comme en automne on peut y méditer, je le dis maintenant en regardant par la fenêtre, la nature qui meurt un peu et revit chaque année, de se demander pourquoi c'est comme ça, de prendre le temps de se le demander dans le silence qui finalement est un peu celui de la nature aussi. Même avec un peu de bruit, on n'a plus le temps de se demander ça, même de se poser la question. Et on pense qu'on n'a pas besoin de chercher parce que ça nous sera fourni. C'est vrai que je ne suis pas du tout en train de, disons, de me réfugier dans une nostalgie complète en me disant c'était tellement mieux autrefois parce qu'on a toujours pensé ça à travers les siècles. Mais et quand même de voir qu'une partie de ce qu'est le cadre naturel et historique de la vie humaine est en train de changer très profondément et qu'on ne sait pas très bien où on va. Et ça vaut la peine d'y réfléchir. Parce que finalement, on a souvent dit à l'Église, vous auriez dû dénoncer cela à l'avance. On savait pourtant qu'on allait persécuter les Juifs, vous n'avez rien dit. Pourquoi avez-vous attendu tellement de temps avant de critiquer l'esclavage? Donc, on nous reproche toujours, après coup, de ne pas avoir fait ce que nous aurions pu déjà percevoir sur le moment. Alors si maintenant on pose des questions, c'est aussi parce qu'on tire la leçon des reproches qu'on nous fait depuis longtemps.
Alors, est-ce que, on a parlé d'Internet, du dispositif technologique qui peut-être empêche une certaine forme de rationalité, voire même de rationalité vive liée à l'existence, un sens de la causalité? On se demande parfois si Internet produit une sorte de relativisation, donc permettrait la pensée faible d'une certaine façon, le bien faible, il y a des opinions tellement diverses, donc on ne peut pas dogmatiser. Et certains ont dit qu'Internet c'était ça, et puis d'autres ont dit, et vous l'avez suggéré, qu'au contraire, Internet c'est aussi la possibilité de rester dans sa sphère, et même qu'Internet est un moyen de radicalisation. À la limite, sur Internet, je n'ai que aussi mes amis choisis, je vais sur les sites que je déteste, mais pour mieux les houspiller ou les attaquer, mais c'est même pas la structure familiale, on est avec des personnes qu'on n'a pas choisies à la limite. Donc il y a vraiment cet effet aussi d'enfermement dans une sphère. Maintenant, je voudrais justement poser cette question, parce qu'on a vu beaucoup de radicalisation par Internet, c'est ça qui est curieux. Et ce dispositif, curieusement, qui pourrait produire de l'athéisme, produit aussi ou sert à la radicalisation. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'aujourd'hui, l'Église doit changer aussi de discours, parce que pendant très longtemps, face au marxisme, notamment dans Gaudium et Spes, la grande critique, c'était la critique de l'athéisme. On était face à une idéologie qui était fondamentalement athée. Et on a cru, en plus, qu'il y avait un processus de sécularisation pure qui nous conduisait à l'athéisme. Or, de fait, au moins depuis 1979, avec l'apparition de Solidarnosc suite à la visite du pape, avec les sandinistes au Nicaragua, où c'est aussi le religieux qui revient sur la place publique, mais surtout avec la chute du Shah d'Iran et l'apparition de l'ayatollah Khomeini, où on était surpris, on craignait les communistes. Et puis tout d'un coup, voilà qu'il y a un imam, un chef religieux, et maintenant on voit où on en est. C'est-à-dire que la critique n'est plus une critique de l'athéisme, mais finalement une critique d'un certain théisme, d'un rapport à Dieu. Est-ce qu'on n'est pas un peu, aujourd'hui, on pourrait dire, en retard sur cela ?
Oui et non. Oui et non, parce que l'athéisme demeure, et à cause même de cette résurgence du théisme ou du phénomène religieux, l'athéisme se nourrit, et certains athées nous reprochent de ne plus prendre la peine de leur parler, comme si leur problème n'existait plus, ou leur problème, ils ne le voient peut-être pas comme un problème, comme si leur attitude n'existait plus, puisque l'Union soviétique est tombée. Mais il reste que maintenant, effectivement, le plus grand danger du point de vue de l'Église catholique est un autre usage de la religion. Je dirais un usage dangereux. J'imagine que quand ce genre de danger apparaît, ça implique toujours un peu tout le monde, donc nous devons aussi veiller à nos propres attitudes. Mais il est vrai que Dieu est susceptible, je ne dis pas Dieu lui-même, nous ne pouvons pas l'utiliser, mais la référence à Dieu est susceptible d'être mal utilisé. Et dans le fond, ce n'est pas étonnant, parce que ce qui est susceptible d'être mal utilisé, c'est ce qui nous tient à cœur, ce qui est important, ce qui peut jouer un rôle central dans notre vie. Alors je me souviens, à titre d'exemple, d'une discussion dans un avion un matin. L'avion volait, je crois, entre Washington et Paris, ce qui symboliquement est assez bon. Ça aurait pu être ailleurs en l'occurrence. Mon voisin, se référant à ce que l'autre voisine et moi avions dit, a expliqué « De toute façon, tout le monde sait aujourd'hui que tous les problèmes viennent de la religion, des femmes et de l'argent. » Bon, alors, j'ai essayé, quant à moi, de me battre un peu sur tous les fronts, enfin de dire quelque chose sur tous les fronts, me disant « Vous savez, les problèmes peuvent venir de ce à quoi nous accordons de l'importance. Il est assez douteux qu'on se batte vraiment sur la préférence entre deux couleurs pour une voiture. Mais je n'avais pas dit ça en l'occurrence, ça je le dis maintenant. Mais quand vous dites les femmes, vous voulez dire en gros les rapports entre les hommes et les femmes. Il y a de temps en temps quelqu'un en amour qui ne marche pas, des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui ont été tués à cause de ça. Et l'argent, ben c'est aussi ce qu'on peut faire avec, en fait. C'est pas seulement l'argent lui-même. Et puis la religion, comme ce qu'on peut faire avec l'argent, comme les relations interpersonnelles, notamment l'amour entre un homme et une femme, par exemple, tout ça, c'est des choses qui sont centrales dans notre vie, qui nous tiennent à cœur, qui nous permettent de vivre de bien des manières. Et c'est parce que c'est important pour nous qu'on se bat pour ça. Alors, continuez. La religion, les femmes et l'argent. À tel point que notre voisine commune me faisait des signes du regard en disant qu'il était inutile que je me fatigue. Mais j'ai plus ou moins renoncé, mais j'ai quand même continué un peu en disant Dieu, la place de la religion dans la vie, même perçue de différentes manières, pour énormément de monde, c'est crucial, c'est souvent une espérance unique, notamment pour des gens plus pauvres et moins pour ceux qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont. Mais si on enlève ça, on déracine la vie de personnes, on les laisse presque sans rien. Mais de même, si vous pensez au nombre de personnes qui ont été tuées à cause de l'amour au cours de l'histoire, il y en a quand même beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On enlève l'amour et le monde sera meilleur ? On enlève Dieu et le monde sera meilleur ? Oh, on évitera certaines raisons de conflit, on rendra juste la vie à peu près impossible à vivre, mais ce ne sera pas nécessairement à cause des autres qu'on finira par mourir.
C'est une sorte de refus du tragique qui aurait derrière ça. C'est-à-dire qu'on aurait une condition tragique. Plus on est vivant, plus on est aventuré dans cette vie, et plus on s'expose aussi, plus on est vulnérable. Donc il y aurait une sorte de refus en même temps de la vulnérabilité qui est induite par les plus grandes choses, finalement.
Une vie totalement aseptisée. Incolore, inodore, insipide. Alors, on n'a plus de raison de se battre, effectivement, puisqu'il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie humaine? On se sent un peu comme un poisson rouge dans un bocal. Et je ne pense à personne en particulier en disant ça, comme si je méprisais ceux qui ne partagent pas ma foi. Mais il est vrai que voir dans une culture où on a laissé entendre que l'évolution normale de l'histoire, c'était que la religion qui s'expliquait bien lorsque le monde n'était pas scientifique, parce qu'il fallait bien se dire que s'il y avait des éclairs, c'est quelqu'un les jetait du ciel, par exemple, mais que toutes les explications religieuses étaient en voie de disparition progressive grâce au développement de l'esprit positif, que dans cette situation qui finissait par rendre la vie finalement un peu fade et qui n'empêchait d'ailleurs pas la violence, il y ait un mouvement de rejet par recherche de quelque chose de plus fondamental, et notamment par recherche de Dieu, sans lequel on se rend compte qu'au bout du compte, non seulement on ne vit pas très heureux, même si on ne se l'avoue pas, mais on se retrouve complètement démuni face à la mort, à laquelle on finit tous par être confrontés, mais qu'il y ait un retour de Dieu, bah évidemment ça ne m'étonne pas. Si ça m'étonnait, ce serait étonnant d'ailleurs. Et que ça puisse être mal utilisé. Seulement, ça peut surtout être mal utilisé quand on nie la question. Et je crois qu'une certaine conception de la laïcité, qui en fait veut refouler la dimension religieuse dans la vie privée et la sortir de l'espace public, accentue ce problème. Parce que non seulement ça donne l'impression à des gens qu'ils étouffent de cette société, qu'ils doivent la changer pour pouvoir recommencer à respirer, mais aussi ça limite beaucoup les possibilités de dialogue rationnel sur ces questions entre personnes qui n'ont pas le même point de vue. Et tout le monde y perd.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de rivalité et d'émulation mimétique entre l'athéisme et le fondamentalisme. L'athéisme, en laissant vide, finalement, le désir de Dieu, le laisse livrer à une anarchie irrationnelle et donc à une pulsion fondamentaliste. De la même façon, le laïcisme, en refoulant le religieux hors du champ, on pourrait dire, de l'éducation et même de la rationalité, ne peut que favoriser finalement un religieux dont on fait mauvais usage et qui va être irrationnel et qui d'ailleurs ne va pas être de l'ordre de la religion mais de la superstition. C'est ce qui se passe au fond.
Oui, de la superstition ou au moins d'une religiosité peut-être beaucoup trop hâtive. Et il est vrai qu'Internet peut favoriser ça. Quand en fait on ne trouve pas là où on est des maîtres, y compris dans le domaine religieux, qui nous aident à mûrir et approfondir au long des années notre relation avec Dieu, et ce que cela implique pour nos relations avec les autres personnes humaines, et en fait on n'a rien, alors on cherche assez rapidement sur Internet, on trouve vite des réponses. Et donc on peut être facilement manipulé par ce genre de choses. Vous avez une solution complète en 10 leçons d'une demi-heure, et puis vous vous lancez.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas, je ne crois pas, ce ne sont pas des options, on pourrait dire, théoriques, mais c'est être disciple qui est essentiel.
Et alors, de qui est-on disciple? Si on est disciple d'idées répandues, certes pas des personnes dans des machines, on risque de comprendre un peu trop tard qu'on s'est fait avoir.
On pourrait essayer de remonter à quelque chose de plus métaphysique. Vous êtes théologien et je me souviens d'un texte d'un maître commun que nous avons, donc l'abbé Journet, où il insistait sur le fait que la grande erreur ou la pire erreur métaphysique, c'est une vision concurrentielle entre le créateur et la créature. C'est-à-dire que pour faire plus de place à Dieu, il faudrait diminuer l'homme. Voilà, c'est un peu la vision du fondamentalisme, hein, le fondamentalisme qui écrase la culture. Et puis de l'autre côté, ceux qui vont dire « Ah ben non, il faut faire toute place à l'homme, donc il faut diminuer la place de Dieu. » Et ça, c'est la réaction athée. Quelle est la juste articulation et est-ce qu'il y a finalement, comment penser justement le juste rapport entre le créateur et la créature en dehors de cette vision de concurrence?
Ça demande, comme vous le dites, et si on le comprend de manière correcte, une approche métaphysique. Mais je dirais que si on y réfléchit bien, elle est à peu près inévitable. Et c'est toujours une tentation dans des systèmes religieux de voir Dieu et l'homme comme étant sur le même plan, c'est-à-dire perspective non métaphysique, et du coup, puisqu'ils sont sur le même plan, se trouvant en concurrence. Je me dis, on peut prendre des exemples. J'écris très rarement avec une plume ou un stylo, parce que quand je le fais, j'ai même de la peine à me lire moi-même. Mais tout de même, l'exemple est plus simple que de prendre l'exemple d'un clavier et d'une imprimante avec un ordinateur entre les deux. Si j'écris un texte, je peux me demander à la fin, qui a écrit ce texte, le stylo ou moi ? Il est évident que c'est entièrement le stylo, surtout si j'en ai pris qu'un, mais autrement, ça revient au même. Mais c'est en même temps entièrement moi qui l'ai écrit. Je ne peux pas dire le stylo a écrit la moitié ou les trois quarts ou 20%, etc. du texte, et moi, l'autre partie. C'est absurde. Mais alors, comment est-il possible que le stylo ait tout fait et que moi aussi j'ai tout fait? Parce que nous l'avons fait à des niveaux différents, parce que nous ne sommes pas des êtres de même niveau. En gros, ce n'est pas la même chose que si je porte une table avec un autre être humain. Évidemment que si on est deux à porter une table, on se dira que aucun de nous deux ne peut prétendre qu'il a porté 100% de la table. C'est en gros plus ou moins la moitié. Évidemment, plus ou moins, ça dépend de la position dans les escaliers ou de la force des personnes, mais c'est plus ou moins la moitié. Si je dis à quelqu'un « j'ai porté cette table », l'autre dira « et dis donc, avec moi ». Mais le stylo ne fait pas ça. Parce que la différence, c'est que le stylo n'est pas un être humain et moi, je ne suis pas un stylo. Donc, nous agissons à des niveaux différents. Et dans le cas précis, le stylo est un instrument et moi, je suis celui qui utilise l'instrument. Et sans le stylo, je n'aurais pas pu écrire. J'en aurais peut-être eu un autre, mais j'ai besoin d'un tel instrument pour écrire. Je dépends un peu de lui. La couleur du texte dépend du stylo, l'épaisseur de la ligne aussi, le fait que j'arrive à écrire plus ou moins bien également. Donc c'est quand même un instrument qui non seulement me permet d'écrire un texte, mais qui en outre me permet de l'écrire plus ou moins bien. Mais son rôle est quand même vraiment passif. Maintenant, s'il y a une différence entre l'être humain et le stylo, il y a une différence infiniment plus grande entre Dieu et n'importe laquelle de ses créatures. Même entre Dieu et un être humain. Encore plus entre Dieu et un stylo, si j'ose dire, mais bon. Donc si je fais quelque chose avec Dieu, je ne vais évidemment pas penser à lui dire que j'ai tout fait moi-même, mais il reste que je peux faire à mon niveau toute une action que Dieu à son niveau me permet de faire. Et que d'une certaine manière, il accomplit en même temps. Au moins, en me donnant de pouvoir la faire. Mais c'est aussi son action. Si on se pose cette question à partir de l'exemple du stylo et du papier et de celui qui a écrit, on se dit, oui, effectivement, on ne peut pas voir tous les êtres comme étant sur un plan unique. Si on les voit tous sur un plan unique, alors on sera toujours porté à se dire, comme le disait déjà Luther, par exemple, un théologien catholique que j'ai un peu étudié aussi,
Catholique,
oui, enfin, j'ai étudié les deux en même temps. Qui pardonne les péchés, Dieu ou le prêtre? Luther dit, tout au début, mais c'est significatif de toute son orientation, ça ne peut pas être le prêtre, sinon ce n'est pas Dieu. Sinon Dieu ne remet pas entièrement nos fautes. Et pour lui, cette question-là était une question fondamentale de sa pensée. Et c'est de fait une question importante. Mais il avait ce présupposé. Inconscient, parce qu'il ne s'intéressait pas à la philosophie et à la métaphysique, ou plutôt, il estimait, et on peut même comprendre pourquoi dans sa biographie, que c'était un peu une perte de temps, mais il reste que l'homme et Dieu se retrouvent en opposition. Alors, c'est la foi ou la grâce, et pas les œuvres, parce que c'est vraiment tout Dieu, et ce n'est pas à nous. Mais c'est un schéma de pensée reçu comme ça, parce que non critiqué. Maintenant, il y a eu des débats semblables dans l'islam à ses débuts, mais l'aspect qui domine est celui qu'en fait, c'est Dieu qui fait tout. Je vois ce que me racontait un confrère dominicain qui a longtemps enseigné, et il le fait encore un peu, à l'école biblique française de Jérusalem, et que j'ai bien connu parce qu'il enseigne aussi à Rome où nous avons été collègues. et qui me disait, une fois, je traversais le désert en jeep avec un de mes collègues, Mugzejet, enfin, je sais pas, quelque chose comme ça, et un chauffeur palestinien, en l'occurrence musulman. Et puis, la jeep est tombée en panne dans le désert, ce qui est quelque peu angoissant. Et surtout quand on n'a pas l'habitude, mais on risque de ne pas avoir l'occasion de l'acquérir vraiment, ce qui fait que c'est vraiment un peu angoissant. Et ils ont vu le chauffeur sortir, eux sont sortis avec, et puis ils l'ont vu se pencher sur le moteur avec sa cigarette au bec. Et ils lui ont dit, c'est un peu dangereux. Et avec une expression typique que je ne cite pas parce que j'aurais sans doute un mauvais accent, le chauffeur a dit, bon, en gros, selon ce que Dieu veut, n'est-ce pas ? Et alors, en entendant cela, je me dis, je comprends, c'est vrai que moi aussi, je veux à chaque instant me soumettre à ce que Dieu attend de moi et le laisser décider au bout du compte. Mais il n'en demeure pas moins que je crois que, un peu comme un stylo, mais pas un stylo passif, un stylo actif et qui réfléchit, c'est-à-dire un instrument qui a, duquel on attend des décisions propres. Je me dis, si vraiment les actions humaines ne comptent pas, et que donc le risque de faire exploser le moteur n'a pas d'importance, parce que c'est Dieu qui décide tout, alors inutile de prendre le volant, inutile de conduire, inutile d'essayer de réparer le moteur. Donc en gros, s'il n'y a pas les deux et qu'on ne comprend pas la collaboration possible entre Dieu et l'homme, dans laquelle certes tout dépend de Dieu, mais il veut que quelque chose dépende de nous, alors on ne peut pas comprendre.
Et c'est une collaboration qui n'est pas un partage, c'est-à-dire 50%, 50%, ce qui est 100% de Dieu sera aussi 100% de l'homme.
Exactement.
Ça veut dire que plus je m'abandonne à la providence divine, je m'abandonne à mon créateur qui me crée et dont l'action ne me rend pas passif mais actif, et dès lors je suis encore plus responsable et je suis encore plus appelé à agir. Mais alors, justement... ça peut se renverser, c'est-à-dire on peut passer, vous parliez de cette théologie musulmane qui dirait que Dieu fait tout, ça peut passer justement de l'idée de « je ne fais rien », ça peut prendre une forme quiétiste, mais ça peut prendre aussi une forme terroriste, précisément parce qu'on dit « tout ce que je fais, de toute façon, c'est Dieu qui le fait ». C'est-à-dire on court-circuite de la même façon la responsabilité de l'instrument libre. C'est-à-dire que là, on pourrait dire, puisque tout est entre les mains de Dieu, si je perpètre un attentat, après tout, il a eu lieu, donc c'est que Dieu l'a voulu. Voilà, c'est comme ça que ça veut. Et je ne suis pas responsable parce que je l'ai fait au nom de Dieu, après tout. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui le fait.
Évidemment qu'avec ça, à la limite... il n'y a plus aucune responsabilité humaine. Je dirais, bien sûr, en tant que chrétien, Dieu permet que nous utilisions mal la vie qu'il nous donne. On ne comprend pas toujours pourquoi il permet ceci ou cela, d'ailleurs. Mais au moins, ce que je crois, c'est qu'il m'a fait comme un être libre et responsable. Et que si ce n'était pas de lui que je le tenais, je ne serais ni libre ni responsable. Et on se pose parfois la question, mais si Dieu sait tout, est-ce que nos actions ne servent à rien ? Est-ce que nous ne sommes pas libres ? Non, Dieu sait aussi que nous agissons librement. Et que quand nous avons décidé quelque chose, c'est librement que nous l'avons fait. Mais si on ne tient pas cet équilibre, évidemment, tout peut se justifier. Et là, je comprends parfois. Je lisais sur Internet tout récemment, après l'attentat qui a endeuillé Paris, quelqu'un qui disait... plus le temps passe, plus je suis heureux d'être athée. Évidemment, par rapport à l'image de la religion qui se montre à lui à ce moment-là, et que peut-être il avait déjà eu l'occasion d'observer par ailleurs, et qui lui a été un peu inculqué par son éducation, je peux comprendre qu'il dise « un Dieu qui fait ça, je ne le veux pas ». Mais ce que je lui répondrais, c'est que comme on peut avoir différentes compréhensions de l'homme, on peut avoir différentes compréhensions de Dieu. D'ailleurs, au sein même d'une même religion, en partie. Et si des gens n'ont jamais vraiment approfondi cette question dans leur éducation, ils n'ont guère que des choix assez simples, parce que c'est des domaines qu'ils ne connaissent pas.
Je voudrais revenir sur cette question de la vision concurrentielle. Curieusement, cette vision concurrentielle, c'est-à-dire l'idée que le créateur sera en concurrence avec sa créature, elle a été portée parfois au sein même de la divinité, puisqu'on a voulu voir une concurrence entre les personnes divines, on pourrait dire, ce qui a amené à l'idée que le Fils était subordonné au Père ou qu'il était moins que le Père. Et ça a été une des grandes luttes, on pourrait dire, de l'Église, à travers la pensée trinitaire, d'imposer une vision non concurrentielle des personnes divines. C'est une remarque que j'ai découverte dans le journal de Philippe Muret, qui n'est pas spécialement théologien, mais enfin, en tout cas, qui est quelqu'un qui réfléchit. Vision non concurrentielle. Il mettait ça en parallèle avec, finalement, le lieu où la concurrence est le dynamisme même de la société. C'est-à-dire que le monde, on pourrait dire, technolibéral, de l'innovation, de la croissance économique, c'est un monde où tout doit être pensé en termes de concurrence. Est-ce que, finalement, c'est pas cette mentalité du marché, cette mentalité concurrentielle qui nous pousserait à avoir une vision concurrentielle aussi de Dieu et de la créature? Est-ce qu'il n'y a pas justement là un autre dispositif, pas simplement celui d'Internet, mais celui de l'économie de marché?
Alors, quand Sartre disait que l'autre est un salaud, il exprimait quelque chose qui, dans une société qui n'en était pas tout à fait où elle en est maintenant, va un peu dans ce sens-là. Si on conçoit les choses dans une vision économiste et même, disons, fondamentalement matérialiste, au bout du compte, j'ai intérêt à arranger mon existence pour la réussir le mieux possible, d'autant qu'éventuellement elle est assez brève. Et l'autre peut me rendre service, alors s'il rentre à mon service, génial, tant mieux. Et puis quand j'en ai plus besoin, je le jette, effectivement, parce que, comme sert-il, ce que le pape François appelle la culture du déchet, on peut voir Dieu dans cette perspective aussi. Dans la mesure où il m'aide, il correspond à une partie de mes besoins. Donc en gros, c'est lui que je trouve quand je fais mes courses dans une partie des rayons du supermarché. Alors je le prends, puisque dans le fond, c'est moi qui compte. Et je prends un peu Dieu. Mais alors s'il se met à me dire quelque chose, comme peut le faire une autre personne humaine en disant « Mais tu pourrais peut-être faire attention à moi parce que je suis là, et puis j'ai peut-être quelques autres désirs sur cette question. » Alors, si c'est Dieu et qui arrive ainsi devant moi, évidemment, ça devient aussi l'autre est un salaud. Dans le fond, ça, là, je ne veux pas qu'il empiète. Et déjà, un peu avec d'autres êtres humains, mais infiniment plus avec lui, si on se comporte ainsi, on finit par s'amputer soi-même.
Ça voudrait dire y aurait un utilitarisme qui peut être aussi un utilitarisme spirituel. Dieu c'est le doudou, c'est le prétexte ou celui dont je me sers. Même la logique de Dieu te conduit à ton bonheur, finalement, pourrait servir une forme d'utilitarisme. D'abord, on se tourne vers Dieu parce qu'il est Dieu, pas simplement parce qu'il me conduit à mon bonheur. Enfin, ce serait trop étroit de ne voir que cela. Mais alors, ça voudrait dire que on est, de ce point de vue-là, dans nos sociétés occidentales, ce qui amène d'ailleurs la réaction, la pulsion inverse, mais dans une religion qui serait foncièrement celle du supermarché. À la limite, si je dis voyons les différentes religions et choisissons celle qui est la meilleure. Est-ce que ça pourrait être une vraie apologétique, cela? Ou est-ce que ce ne serait pas justement être d'emblée dans la religion du supermarché?
Ce serait une apologétique pour supermarché. Je pense au philosophe des religions japonais-bouddhiste Keiji Nishitani, je crains de ne pas prononcer son nom de manière correcte, qui disait beaucoup, je crois qu'il est mort vers la fin du XXe siècle, si je me souviens bien. Il disait, pas mal de monde demande à quoi sert la religion. Il veut étudier les religions en disant à quoi servent-elles. Ce qui est un peu une manière de dire quelle est la meilleure pour moi. En gros, en fonction, comme quand j'achète une voiture, je regarde le type d'usage que je veux en faire. Nishitani disait, mauvaise question, on n'a pas compris de quoi on parle. La religion me dit à quoi je sers. Et ce n'est pas la religion qui doit me servir à moi. Et c'est un bouddhiste qui le dit. Mais essayons d'avoir un panorama général sur le phénomène religieux. Mais
est-ce que « à quoi je sers » c'est encore un peu faible? C'est plutôt « qui je sers ». C'est là où il y a peut-être encore une forme d'utilitarisme négatif là, chez le bouddhiste.
Il n'a pas une vision personnelle de Dieu. Et être en relation avec une personne, c'est autre chose. Je pense que, dans le fond, c'est ce que tout le monde souhaite, mais parfois en ne le comprenant pas très bien. Quand je vois des jeunes de confirmant, notamment, qui me disent, en même temps, une des raisons du désir de confirmation est que je veux quelqu'un à qui je peux vraiment faire confiance parce que je souffre dans ma vie, ma famille dit ça souvent. Mais je ne peux pas croire que ça ne personne, c'est une énergie. Je dis, ah, mais quelle relation personnelle avez-vous avec une étincelle électrique? Dans le fond, ce que vous voulez, c'est une relation avec une personne. Mais évidemment, si vous pensez que personne, ça signifie nécessairement être comme une personne humaine, c'est-à-dire à tous égards, donc avec un corps un peu comme nous, et puis finalement limité et mourant, c'est pas ça qu'on entend quand on parle de personne à propos de Dieu. Mais par contre, quelqu'un avec qui on peut avoir un vrai dialogue et qu'on peut aimer, pas seulement comme on aime un objet, on les aime aussi, mais c'est quand même pas la même chose. Et on voit comment les auteurs spirituels, notamment dans le Carmel, décrivent les consolations que nous recevons de Dieu et les épreuves. Et bien, il y a des moments où, quand on prie, Dieu nous fait sentir sa présence de manière très vive, puis on se dit, oh là, on sent effectivement, on est heureux quand on est avec lui. Et puis il y a des moments, où, mais ça peut être pendant des années, on ne sent plus rien. Alors pour quelqu'un qui s'est enfermé dans un monastère, c'est assez, ça semble un échec assez complet quand même. Je ne sens plus du tout la présence de Dieu. Et comment l'analyse-t-il? En disant, mais Dieu veut aussi voir si c'est lui que j'aime ou ce que je reçois de lui. En gros, j'aime la personne ou les cadeaux qu'il me donne. Je vais voir ma grand-mère parce que je l'aime ou parce qu'elle me donne des cadeaux. À un moment donné, tout enfant, ou presque tout enfant, est amené à se poser une question comme ça. Et alors Dieu, c'est parce que je me sens bien avec lui? Non, c'est parce que je suis heureux d'être avec lui, parce que je l'aime lui. Même si parfois, je ne ressens pas grand-chose face à notre condition actuelle.
La transcendance de Dieu, finalement, c'est toujours, pour prendre une expression lévinassienne, quelque chose qui est lié à un visage, à une personne. La personne est transcendante parce qu'elle a l'initiative, elle me commande, elle est capable de me parler. Quand c'est une énergie, c'est une alimentation, donc en fait, c'est moi qui commande toujours. Et c'est moi qui prends l'énergie pour en faire voilà, à ma guise. Mais là, si c'est pas une énergie, c'est un autre, c'est une personne, c'est un visage. Il vient avec son propre visage et pas simplement ce que moi je projette. Et il vient avec sa propre parole et pas ce que je projette. Alors est-ce que, justement, est-ce qu'il n'y a pas ce danger aujourd'hui d'une affirmation qu'on trouve beaucoup chez certains philosophes, c'est-à-dire l'affirmation, par exemple, comme chez André Comte-Sponville, d'une transcendance dite laïque, mais derrière ça, c'est finalement une transcendance sans visage?
Oh, ou alors, ce n'est pas vraiment une transcendance parce que c'est moi.
Ou c'est le non-moi uniquement, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Oui, mais c'est au service de moi. Ce qui est au centre, c'est moi. Parce que comme je veux me sentir bien et que je me rends compte qu'une touche spirituelle, ça fait partie de l'ensemble, et que ça quand même plutôt mieux, alors je peux, disons, prendre des éléments de spiritualité un peu non religieuse ou alors bien aseptisés. Mais au bout du compte, c'est mon bien-être à moi. Donc, cette transcendance, au bout du compte, c'est moi. Bon, certes, Comte-Sponville ajoute quand même qu'un aspect de cette transcendance est aussi un certain combat pour la justice, la solidarité, également le bien de l'autre. Donc là, c'est pas purement égoïste, il faut quand même le laisser. Et je crois que c'est sincère chez beaucoup de monde. Mais là aussi, est-ce que petit à petit, enfin, de combien de temps arrive-t-on à le maintenir? Parce que la logique pourrait tout aussi bien être, j'ai qu'une vie, je la mène, et puis l'autre, ben, se débrouille. Sauf quelques-uns que j'aime bien et que j'essaie d'aider. Et je crois qu'on voit un éloignement progressif des racines, même de la dignité humaine, du respect de la dignité de l'autre. Au début, toute la famille va à l'église, et puis on dit aussi, il faut aider les pauvres. On ne sait peut-être pas pourquoi, mais à l'église, on dit qu'il faut le faire, et puis Jésus l'a dit, donc on le fait. Génération suivante, on va à l'église une fois de temps en temps, finalement, plutôt Noël et Pâques, voire une ou deux fois dans l'année. Et puis on aide les pauvres. Génération d'après, on aide les pauvres. On a toujours fait ça dans la famille. On ne sait plus pourquoi, Mais c'est bien, et c'est bien, de fait. Mais est-ce que le risque n'existe pas qu'à la génération suivante ou à celle qui suit ? Mais dans le fond, pourquoi ? On n'a déjà pas trop pour nous.
On va devoir bientôt arrêter cette émission. Une dernière question. Est-ce qu'on pourrait dire que, je me souviens toujours de cette parole du pape Jean XXIII, de Saint Jean XXIII maintenant, il faudrait dire, selon qui un concile, mais on pourrait dire ça du rapport avec l'ensemble des dogmes, avec les sacrements, c'est une rencontre avec le visage du ressuscité, c'est-à-dire Dieu qui vient avec un visage, non pas ce que moi je projette sur une transcendance abstraite, qui est même le négatif de moi-même, je peux l'inventer, ou avoir des exigences morales générales, mais vraiment une personne qui vient avec ses traits, avec son histoire, avec la révélation aussi d'une justice, parce que je peux fantasmer n'importe quoi sur la justice, c'est au nom de la justice qu'on a fait les pires carnages, donc il faut aussi quelqu'un qui me montre ce qu'est la justice, ce que c'est que l'amour des pauvres, etc. Est-ce que finalement, on pourrait dire que la vraie transcendance passe nécessairement par une révélation, l'autre vient à moi, et aussi par la sacramentalité? Il me touche, les sacrements, c'est Dieu qui vient me toucher, c'est pas moi qui me fais une sorte de méditation transcendantale où j'essaye par mes propres forces ou en me tirant par les cheveux comme le baron de Munchausen pour m'élever dans le ciel, mais c'est Dieu qui descend et qui vient me toucher, c'est pas moi qui ai l'initiative, c'est ça la transcendance, il faut des sacrements pour qu'il y ait rapport véridique à une transcendance.
Alors, si c'est une transcendance à laquelle je n'ai pas accès, c'est peut-être une transcendance, mais je n'y ai pas accès. Pour que j'y ai accès, si elle est vraiment transcendante, il faut qu'elle vienne. Sinon, c'est qu'elle n'est pas assez transcendante. Je crois que Dieu étant transcendant et nous ayant fait, veut être en contact avec nous. Comme chrétien, je dis, et je crois que c'est vrai, par conséquent, pas parce que je le dis, mais je dis parce que je crois que c'est vrai. Il vient à nous, il se fait homme, et il nous donne le moyen de rester avec lui. Nous-mêmes, par ses dons constants, c'est ça la sacramentalité.
Oui, le temps, l'horloge tourne. Merci, Monseigneur. On va s'arrêter ici. Alors, vous seriez une star de rock que je vous demanderai les dates de vos prochains concerts, mais il y a un moment où vous rencontrez vos fidèles. Il y a une messe que vous donnez régulièrement à Fribourg.
Le dimanche soir à 20h30, oui, presque toujours. Mais je rencontre des fidèles en bien d'autres occasions, un peu partout.
Ben voilà, en tout cas, on peut vous rencontrer, on peut vous voir fréquemment, donc à la messe de 20h30 le dimanche. On y appelle tous ceux qui veulent vous voir. Voilà, merci Monseigneur Charles Morero. C'était Entre nous soit dit, une émission présentée par Fabrice Adjadj avec Marlène Caron à la technique. Merci et à bientôt.